VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Le ton monte à Madagascar. Le ministre de la Défense menace de faire intervenir les forces de sécurité si le gouvernement et l'opposition ne trouvent pas rapidement une issue à la crise politique qui secoue la grande île de l'océan Indien depuis plus d'un mois. Plus de détails avec Morgane Guillouyec.
Nous incitons tous les responsables de cette crise qui veulent bloquer la vie de la nation à trouver une issue, a prévenu Beni Xavier Razolofonirina, ministre malgache de la Défense. Il a ajouté, faute de quoi, les forces de l'ordre interviendront comme dernier rempart de la nation afin de ne pas laisser le pays dans une situation catastrophique. Le 25 mai, la Haute Cour constitutionnelle a ordonné au président Héry Rajaonarimampian de nommer un premier ministre de consensus et un gouvernement d'union nationale en lui donnant un délai d'une semaine. L'opposition réclame depuis plus d'un mois la démission du chef de l'État. L'injonction de la Haute Cour a suscité la polémique. Son calendrier n'est pas clair et surtout le régime et les opposants revendiquent tous les deux la majorité à l'Assemblée. Les négociations entre les deux camps sont toujours au point mort.
Au Burundi, le oui a été sans surprise confirmé comme résultat définitif du référendum du 17 mai dernier par la Cour constitutionnelle, à plus de 73% des suffrages. Un vote qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de rester à la tête de l'État jusqu'en 2034. L'opposition burundaise dénonce une Cour constitutionnelle au service du parti présidentiel, tout comme la CENI, la Commission électorale nationale. Micro-trottoir à Bujumbura avec le correspondant de VOA Afrique, Christophe Nkurunziza.
On a voté oui au lieu de non parce qu'on a peur de pression ici sur le pouvoir actuel.
Moi, je vois rien de surprise parce que avec la CENI actuelle, je pense qu'il ne pourra pas y avoir de changement parce que c'est l'outil du gouvernement, la CENI.
Les membres de cette cour ont été nommés par le président de la République. Comment est-ce qu'ils peuvent dire que le président de la République a perdu? C'est impossible.
Ils sont nommés par le gouvernement. Alors, la plupart des gouvernements, c'est ça, les participants dans cette partie politique, la CNDD, alors qui est proposé de changer sa constitution, raison pour laquelle ça ne me tient pas. Bien sûr qu'il m'a déjà même table en partageant quelques biens de l'État.
Non, c'est une cour constitutionnelle, c'est comme un service d'autorégulation, ça devrait être ainsi, il devrait prendre du temps, mais vu que le oui a gagné plus de 70%, même on pourrait ajouter plus d'autres encore.
Des Burundais s'exprimant sur le référendum constitutionnel au Burundi. Agitation sociale au Tchad maintenant. Les avocats, huissiers et notaires se sont joints aux magistrats en grève dans tout le pays pour soutenir un avocat pris à partie par des forces de l'ordre. Les fonctionnaires tchadiens sont aussi en grève, mais pour d'autres raisons. Bagasikoura.
Les avocats huissiers et notaires du Tchad ont cessé leurs activités hier et jusqu'au 6 juin, ils prévoient une marche pacifique si le gouverneur et le commandant de la gendarmerie de la région de Doba ne sont pas relevés de leurs fonctions. Ils ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État pour dénoncer les multiples agressions dont sont victimes les acteurs judiciaires. Les magistrats avaient déjà cessé le travail pour protester contre l'agression le 22 mai à Doba d'un avocat par les forces de l'ordre. Maître Doumara Manassé avait dit avoir subi des tirs sur sa voiture alors qu'il transportait trois de ses clients relaxés. Selon lui, ils ont été tabassés et amenés à la gendarmerie de Doba. Le Tchad connaît par ailleurs, depuis le début de la semaine, une grève très suivie de la fonction publique qui a bloqué hôpitaux, écoles et ministères. Les fonctionnaires tchadiens réclament le paiement de leurs primes et indemnités.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Nigeria voisin, le président Muhammadu Buhari a finalement signé le projet de loi accordant la possibilité aux jeunes de briguer la magistrature suprême ainsi que d'autres postes électifs. Les Nigérians doivent se rendre aux urnes en 2019 et de plus en plus de voix s'élèvent pour appeler les jeunes à prendre les rênes du pouvoir et changer le pays. Les détails avec Gilbert Tamba, le correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
La loi promulguée réduit de 40 à 35 ans l'âge pour briguer la magistrature suprême au Nigeria, de 35 à 30 ans pour le poste de gouverneur et de 30 à 25 ans pour les assemblées étatiques. À l'Assemblée nationale, le projet de loi avait été rejeté une première fois avant son adoption par la majorité des deux chambres. Cette loi était très attendue et les jeunes s'étaient mobilisés à travers le pays pour réclamer son adoption. Diverses organisations de la société civile nigériane ont mis la pression sur les parlementaires pour faire passer le projet de loi. C'est maintenant chose faite, mais certains Nigériens estiment qu'en réalité, l'âge n'est pas le problème. Ils y voient dans la nouvelle loi un moyen pour les enfants des élites ou des riches de bénéficier des hauts postes dès l'âge de 30 ou 35 ans. Considérant la situation politique du pays, ce projet de loi risque de favoriser les enfants des ténors de la scène politique, estime un analyste.
L'opposant burkinabé Blaise Ouédraogo joint Ouagadougou. On passe maintenant au dialogue politique. Le Burkina Faso à l'école du Danemark. Des parlementaires burkinabés ont séjourné du 12 au 19 mai à Copenhague, la capitale danoise. Ils viennent de remettre leurs observations au président burkinabé Rochmark Christian Kabore. L'opposant et ancien ministre Blaise Ouédraogo faisait partie de la délégation. On l'écoute.
Il faut travailler à ce que le dialogue politique au Burkina Faso devienne une réalité. Il faut restaurer la confiance entre les Burkinabés et le chef de l'État, de par ses prérogatives constitutionnelles étant le garant de l'unité nationale, nous l'avons rencontré et le chef de l'État s'est engagé à aller de l'avant. Il a indiqué sa disponibilité donc à accompagner le processus qui est allé lancer. Et je pense que l'étape de Copenhague aura été d'une grande utilité pour la restauration d'une confiance, la restauration d'un respect des prix au Burkina Faso.
C'était l'opposant burkinabé Blaise Ouédraogo joint à Ouagadougou. Bras de fer commercial entre Washington et l'Union européenne, le Mexique et le Canada. Les États-Unis ont imposé à ses trois partenaires commerciaux d'importantes taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium. Et à partir de ce vendredi, ils sont sujets à des tarifs de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. L'Union européenne, le Canada et le Mexique promettent des représailles. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris l'économiste Sylvie Martelly.
Je crois qu'on est toujours dans cette logique de Washington de pousser les Européens, les Canadiens, les Mexicains à aller dans la direction où souhaitent les faire aller les États-Unis. Donc ce qu'il faut en conclure, c'est que finalement, les partenariats traditionnels, les ententes traditionnelles, les alliances traditionnelles n'ont pas grande de valeur pour l'administration américaine qui est aujourd'hui en place. On peut punir ses plus proches alliés, c'est pas très grave, et puis on va s'entendre avec des pays qui à la base sont considérés plutôt comme des concurrents, voire comme des menaces. Et pourquoi les États-Unis font ça? Eh bien, très probablement parce qu'ils ont tiré la conclusion qu'au fond, ce sont des pays calmes, entre guillemets. C'est pas des pays qui vont imposer des rétorsions. C'est pas des pays qui sont très dangereux pour les États-Unis. Donc, on tape et puis on attend de voir ce qui va se passer, mais on n'a pas trop de crainte quant à ce qui pourrait se passer en termes de rétorsions.
Est-ce que c'est une stratégie qui va payer pour Washington? Parce que le secteur de l'automobile va aussi être atteint.
Ça, l'avenir nous le dira. Moi, je crois que c'est pas la bonne stratégie, mais quelque part, ça peut fonctionner aussi, hein, et on peut se tromper aussi. Si les Européens ne sont pas unis pour réagir, si les Européens ne se positionnent pas, si les Canadiens ou les Mexicains ne se positionnent pas et ne s'opposent pas à ces mesures, bah, les Américains auront tout gagné en réalité. Ils auront taxé l'acier, il n'y aura aucune, donc protéger ce secteur aux États-Unis, avec des conséquences qui seront relativement mineures pour leur économie. Alors, encore une fois, tout est relatif, puisque si le président Trump évoque ensuite, après l'acier, la question de l'automobile, c'est parce que, bien évidemment, le secteur automobile américain va souffrir de ce protectionnisme sur l'acier et que, finalement, le président américain se dit « mais qu'à cela tienne ».
Est-ce que l'Union européenne a les moyens de répondre à ces mesures de Washington? Quels sont les produits américains, par exemple, qui souffriraient?
On avait parlé des Harley Davidson et beaucoup avaient rigolé, mais au-delà de ça, il y a tout un ensemble de secteurs d'activité qui peuvent être touchés et choisis par l'économie européenne. L'Europe est le premier partenaire commercial des États-Unis et vice-versa. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Europe en dehors des pays européens en tant que tels. Donc bien évidemment, quand on a des relations commerciales aussi importantes, des mesures de protection peuvent faire du mal des deux côtés et les deux parties ont les armes pour se protéger.
L'économiste Sylvie Martelly à Paris. Et pour terminer, le dialogue entre Washington et Pyongyang a permis de vrais progrès vers l'organisation de sommets historiques entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. C'est ce qu'a assuré jeudi le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.